Vous le voyez à l'écran, le thème que j'ai choisi de traiter devant vous ce matin, c'est le parabole de l'économe infidèle. Je relisais l'évangile de Luc cet été et j'ai été interpellé par cette parabole. Un économe, on dit aussi un intendant, c'est un serviteur, normalement fidèle, qui était à l'époque souvent né dans la propriété et qui était chargé de la gestion et de la répartition des biens dans la maison. Il distribuait la nourriture à tous les autres serviteurs et gérait ainsi les ressources de son maître pour le bien des autres. Il agissait en tant qu'agent de son maître et il était investi de l'autorité qui lui permettait de négocier les affaires au nom de celui-ci. Alors on s'attend donc à ce que Jésus livre ici un enseignement sur la façon de bien gérer notre argent ou les biens qui nous sont confiés. Bien sûr, cette dimension est présente dans la parabole, mais je pense qu'il y a aussi un autre objectif, c'est que quand on regarde quel est le contexte, on voit que cette parabole de l'économe infidèle, elle est dans toute une liste d'autres paraboles, alors qui nous parlent d'argent, c'est vrai, la drachme, le fils prodigue, c'est une histoire d'héritage aussi qui est dilapidée, l'homme riche et Lazare après, donc c'est clair qu'on est dans le sujet, mais ce sont aussi des paraboles qui nous parlent du salut. Et nous verrons que c'est un aspect qu'on peut trouver aussi dans celle de l'économe infidèle. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 16, les 13 premiers versets. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même: « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il. Et il lui dit: « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre: « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, » répond-il. Et il lui dit: « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jusqu'ici la lecture. Alors on peut distinguer plusieurs actes dans ce récit. Les deux premiers versets, dans notre langage actuel, on dirait le patron convoque son employé et lui annonce son prochain licenciement. La raison, il lui reproche de dilapider ses biens et il lui demande de se préparer à lui rendre des comptes. On pourra remarquer que pour l'intendant, c'est quand même quelque chose qui survient brusquement. Comme ça, il est convoqué, et licenciement, c'est même pas une réprimande ou quoi que ce soit, la mesure est brutale et inattendue. Deuxième acte, l'intendant met ce délai à profit pour réfléchir et se demander ce qu'il va faire. On a noté qu'il a bien compris la gravité de la situation. Non seulement il va perdre son emploi, mais aussi sa réputation. Il va donc lui être très difficile, voire impossible, de retrouver un emploi comme intendant dans une autre maison. Alors il envisage différentes possibilités. Travailler au champ, il ne s'en sent pas la force. Mendier, il nous a dit qu'il aurait honte, et on le comprend. Passer d'un poste de responsabilité à un statut de mendiant, évidemment, personne n'a envie de connaître ça. Troisième acte, la solution retenue par l'intendant. Il convoque un à un les débiteurs de son maître et leur consent des réductions importantes de leurs dettes. Et finalement, là, on arrive au point crucial de la parabole. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça ? Alors, pour avoir une réponse, j'ai fait quelques recherches, et il y a une chose qui est assez communément admise aujourd'hui, c'est que un intendant n'était pas payé pour ce qu'il faisait. En fait, il lui appartenait de se dédommager de ses frais en prélevant une commission sur les transactions qu'il menait. Le texte nous apprend que ces commissions pouvaient être importantes. On a vu que le prix de l'huile doublait. Le prix du blé lui était majoré d'un quart. Et ça nous montre bien que cet intendant-là était très attaché à l'argent pour réclamer des commissions pareilles. En diminuant la dette des débiteurs, il ne volait pas son maître, puisqu'il allait lui rendre ce qui avait réellement été emprunté, il renonçait simplement à ses commissions. Alors c'est astucieux parce que il gagne ainsi les faveurs de ceux qui auraient pu l'employer plus tard, et il leur laisse même penser que finalement, il se contente de commissions vraiment modiques, quoi, puisque là, en l'occasion, il leur fait cadeau de la commission. Donc celui qui voudrait l'employer se dirait, tiens, c'est un intendant qui ne me coûterait pas cher. Et cette lecture fait que un auteur comme René Fuchs a rebaptisé la parabole en la qualifiant de la parabole de l'économe intelligent. Alors ça peut choquer, mais si on revient à la racine étymologique du mot intelligent, l'intelligence c'est l'art de comprendre ce qui se passe. Lui, il a bien compris ce qui se passait, il a bien compris qu'il courait à sa perte, qu'il fallait faire quelque chose. Et il a trouvé une solution. Et le dernier acte, et c'est celui-là qui nous scandalise, enfin je ne sais pas vous, mais moi oui, le maître loue l'habileté de son intendant. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que ce maître? C'est un naïf ou quoi? Il a pas compris? Si, il licencie son intendant, donc il a compris ce qui se passe. Mais il le loue. Alors comment se fait-il qu'il puisse louer cet intendant? Alors en cherchant un peu dans la littérature, j'ai trouvé deux interprétations qui correspondent en fait à deux traductions différentes du texte. Tout dépend de qui est le Seigneur dont parle le début du verset 8. Le Seigneur loua l'intendant. Est-ce que c'est celui que j'appellerais le patron de l'intendant? Si c'est lui, on peut se douter que c'est pas la malhonnêteté de l'intendant qu'il loue, mais plutôt son habileté à gérer ses propres intérêts, ceux de l'intendant. L'intendant a bien su s'occuper de son cas personnel. Et donc le maître pourrait dire, finalement, bien joué l'artiste, t'as fait une belle pirouette, tu t'en es bien tiré. On l'a dit, il a vite compris la gravité de la situation et l'urgence d'une réaction. Et puis quand on regarde bien, là où le stratagème de l'intendant est quand même remarquable, c'est que ce qui devait causer sa perte, les commissions excessives qu'il réclamait, eh bien c'est finalement ce qui va lui attirer la faveur des débiteurs. Alors qu'auparavant, son but c'était d'accumuler égoïstement l'argent, au risque de ruiner les paysans de son maître, vous avez vu les commissions, je veux dire, doubler le prix de l'huile, c'est pas rien. Eh bien, au lieu de garder cet argent pour lui, il en fait un outil de réconciliation avec les débiteurs. Et c'est à la fois l'astuce, l'habileté de l'économe, mais aussi sa prudence qui serait louée par son ancien patron. Je remarquerai aussi que le fait que le maître change d'avis sur son intendant, ça pourrait aussi être vu comme une image du Dieu d'amour qui est capable de changer d'attitude quand on change de comportement. Ce maître, il n'a pas mis une fois pour toutes une étiquette sur le front, mauvais intendant. Mais là, il reconnaît l'habileté de celui qui l'a servi. Certains voient Dieu comme un juge rigoureux et légaliste. Ici, le maître lui est présenté comme quelqu'un qui est capable de changer son appréciation quand la personne en face de lui change de comportement. Pour d'autres traducteurs, le Seigneur dont il est question au début du verset 8, c'est Jésus lui-même. Il se base en fait sur le texte araméen qui utilise deux expressions légèrement différentes. Le Seigneur dont il parlait au début de la parabole, le terme araméen est au singulier, alors qu'au verset 8, il est au pluriel. Je vous lis ce que j'ai trouvé, j'ai pas de compétences particulières dans ce domaine, mais ce pluriel semblerait être un pluriel de majesté et donc évoquerait plutôt Jésus. Et là, on est encore plus surpris que ce soit Jésus qui donne cet intendant en exemple. La question n'est pas sans importance de savoir si c'est le patron ou si c'est Jésus qui donne l'enseignement, parce que la parole du patron, elle n'a quand même pas le même poids que la parole de Jésus. Mais j'en retiendrai quand même un fait, c'est que dans les deux cas, le comportement de l'intendant, que nous qualifions généralement de moralement répréhensible, eh bien, est quand même donné en exemple. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de voir comment on peut mettre cette histoire en application dans nos vies. Est-ce qu'il est utile de préciser que, évidemment, Jésus ne loue pas la malhonnêteté ni l'âpreté au gain, fût-elle pratiquée par un intendant habile? Il veut interpeller ses auditeurs sur leur compréhension du royaume de Dieu. Rappelez-vous la succession des paraboles. Et il choisit d'illustrer cette question par un homme qui est lié par l'argent. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve aussi souvent des mentions de l'argent. C'est que l'argent, c'est souvent le plus sérieux concurrent de Dieu. Comme Luc le précisera d'ailleurs à la fin de la parabole au verset 13. Alors si je reprends quelques points de la parabole, l'intendant était chargé de gérer les biens de son maître. Eh bien nous aussi, tout ce que nous possédons, que ce soit nos possessions matérielles, nos dons, nos qualifications, tout nous vient de Dieu, rien n'est à nous. L'intendant, lui, gérait les biens de son maître avant tout pour en profiter, pour en tirer un maximum de profit personnel. Rappelez-vous, les commissions exorbitantes. Et en risquant de ruiner les paysans, il risquait même de ruiner son maître lui-même. Et c'est cette façon de faire qui va lui faire perdre son poste et aurait pu le conduire à la ruine. Nous aussi, nous pouvons être tentés de garder ce qui nous a été donné, quand je dis donné, confié plutôt, et d'en profiter égoïstement. Mais je crois que si tel est le cas, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, ça c'est sûr, et comme le maître de l'intendant, Dieu nous demandera un jour des comptes. Rappelez-vous la parabole des mines ou des talents. Les choses sont confiées, celui qui n'a rien osé en faire et qui les a laissées est jugé comme un mauvais serviteur. Et puis on peut aussi tirer un autre enseignement de cette situation, l'annonce brusque du licenciement, qui peut faire penser qu'aucun d'entre nous ne connaît le jour ni l'heure où il comparaîtra devant son Dieu. Et comme ce licenciement pouvait être l'occasion de tout perdre, eh bien la comparution devant le tribunal de Dieu, ça peut être, quand on n'a pas pris les dispositions qu'il faut avant, ça peut être aussi l'occasion de tout perdre. Rappelez-vous ce riche insensé qui planifie sa vie, qui se croit à l'abri parce qu'il a fait de grandes récoltes et qui mourra le lendemain sans même avoir pu en profiter. Je résumerai ce passage en disant « Envisager l'éternité, c'est toujours une urgence en fait. C'est toujours une question à prendre au sérieux et tout de suite. » Et en cela, l'intendant, lui, il a bien compris la gravité de la situation et la nécessité de réagir. Eh bien, l'Épître aux Éphésiens nous dit aussi que nous aussi, nous avons à réagir. Alors bien sûr, beaucoup d'entre nous ont déjà fait ce pas, et donc la situation n'est plus tout à fait la même, mais si vous ne l'avez pas encore fait, l'Épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » La première fois qu'on lit ça, on se dit « Comment ça, je suis mort ?» Beaucoup n'en sont pas conscients et ne réalisent pas le danger qu'ils encourent. Passer l'éternité loin de la présence de Dieu, où il nous est dit simplement que c'est un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, il nous est donné une description succincte de l'enfer. C'est pas un lieu où on a vraiment envie de séjourner. Quand le riche comprend que pour lui il est trop tard, il demande à Abraham d'envoyer prévenir ses frères. Et vous vous souvenez de la réponse d'Abraham ? C'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard ? Alors, pour le riche, c'est trop tard parce qu'il est mort. Et pour ses frères qui vivent encore, il leur dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Parce que le riche dit, mais envoie quelqu'un. Mais Dieu a déjà envoyé Jésus. Et si on n'écoute pas ce message de Jésus, il n'y a plus rien d'autre qui peut nous sauver. L'intendant, lui, il a su avoir de la clairvoyance et du discernement. Et il a su renoncer à ce qui était jusque-là essentiel pour lui. L'argent, posséder, avoir un statut social, un rang. Est-ce que nous savons, nous aussi, renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu ? Beaucoup disent préférer garder leur liberté, leur libre arbitre, plutôt que de se donner à Dieu. Et en pensant à cela, je me suis souvenu d'une anecdote que j'avais entendue, qui est illustrée par cette petite image, qui nous montre comment, en Asie du Sud-Est, on piège certains singes. Le chasseur prend une noix de coco, fait une petite ouverture, il vide bien l'intérieur de la noix de coco, mais avec une petite ouverture, et il met à l'intérieur de la noix de coco une friandise, un fruit, enfin un truc qu'il sait apprécier des singes. Il accroche solidement la noix de coco avec un filet, une corde ou quelque chose comme ça, puis il laisse ça, il s'en va. Quand le singe repère la friandise, qu'est-ce qu'il fait ? Il va, il met la main dans la noix de coco, et quand la main est comme ça, elle passe. Et quand il attrape le fruit, il ferme le poing, et là, ça sort plus. Et ce qui est incroyable, c'est que là, le chasseur peut s'approcher, le singe lâche pas, et il se fait capturer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une image, moi, que je trouve assez parlante. Qu'est-ce qui est important pour nous au point qu'on ne veuille pas lâcher ? Et que donc, on se fasse prendre dans les filets de Satan. Quelle est notre banane, notre orange, notre friandise qui nous empêche de bouger et de progresser dans notre marche avec Dieu ? On peut reconnaître à l'intendant le mérite d'avoir su lâcher ce qui allait le conduire à sa perte. Et je pense que c'est cela qui nous est donné en exemple, pas sa roublardise. Et si le début de ce verset est intrigant, comment est-ce qu'on peut louer quelqu'un qui est malhonnête ? Du moins qu'on pense malhonnête. Mais la fin tout aussi, est tout aussi surprenante. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Je sais pas vous, mais moi quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire après le verset du début, quoi. Au point que les traducteurs se disent, mais c'est pas le même auteur, quoi. Bon, au début, c'est le patron ou c'est Jésus, puis après c'est Luc qui rajoute un commentaire pour expliquer la parole de Jésus. On reste un peu interrogateur. Et là je me dis que ce soit Jésus, Luc ou un autre, j'ai un peu l'impression qu'il lance une pierre dans notre jardin, quoi. En comparant le comportement des gens du monde avec celui des rachetés. L'intendant lui a très bien compris comment fonctionne le monde des affaires. Et il a su s'attirer les grâces de ses potentiels futurs employeurs. Et nous, est-ce que nous faisons preuve du même discernement et de la même prudence à l'égard du royaume de Dieu ? Cette phrase nous interpelle, chacun en particulier, et je la prends pour moi comme un avertissement, une exhortation à être vigilant et à ne pas prendre à la légèreté ce qui concerne notre éternité. Les fils de ce monde savent prendre leurs précautions pour se protéger du mal à venir. Les croyants devraient se montrer d'autant plus prévoyants puisqu'ils sont animés par des considérations éternelles et non simplement terrestres. Et là ensuite, au verset 9, je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté, c'est bien Jésus qui nous parle et qui dit « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Ça aussi, je ne sais pas vous, mais moi ça ne me paraît pas très très clair à la première lecture. Faites-vous des amis, on comprend, avec les richesses injustes. Si on parle de l'intendant, on a bien compris pourquoi c'était injuste. Les nôtres de richesse, est-ce qu'elles sont justes? Alors déjà, on peut remarquer qu'entre nous, elles ne sont pas équitablement réparties. Si on parle rien que de l'argent, on sait bien qu'on n'a pas tous les mêmes facilités pour vivre. La santé, les qualifications, tout ça, c'est très inégalement réparti. Injuste aussi l'argent parce qu'il ne tient pas ses promesses. Il nous fait croire qu'il assure notre sécurité, qu'il nous donne un certain pouvoir, une certaine supériorité, un certain rang social, souvent aux dépens des autres d'ailleurs. Et la parabole du riche insensé nous rappelle que l'argent ne tient pas ses promesses et qu'il est souvent un facteur de division entre les hommes. Les richesses injustes, oui. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Bon, les tabernacles éternels, on imagine, bon, c'est la vie dans l'éternité. Mais qui est-ce qui va nous recevoir? Les amis? Alors, Colin parlait de notre petit cerveau, le mien aussi. Bon, s'ils nous reçoivent, c'est qu'ils sont là-bas avant nous. Ils nous reçoivent quand elles viendront à nous manquer. Donc, ces richesses, elles vont peut-être nous manquer un jour. Alors je me suis dit, mais dans la parabole, les amis de l'intendant, c'est qui? C'est ceux à qui il a remis leur dette. Là, le texte est clair. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je parle remise de dette, je pense pardon. Nous, nos dettes vis-à-vis de Dieu, c'est nos péchés. Et là, je pense au pardon. Alors, ça n'est que ma lecture, hein. Je ne prétends pas du tout avoir tout compris dans ce verset. Mais je me dis que finalement, quand nous serons dans l'éternité, eh bien nos amis, ce seront ceux à qui nous avons pardonné, ceux envers qui nous avons fait preuve d'amour. Et on fera une grande communauté. Alors, l'histoire d'antériorité ou pas, ça je ne sais pas si c'est important. Dans l'éternité, il n'y aura plus de temps. Donc, arriver avant, après, ça je pense que ça n'aura plus aucun sens. Ce qui est important pour l'intendant, ici, c'était d'être réconcilié avec les débiteurs pour pouvoir retrouver un emploi plus tard. À cause du royaume de Dieu, ce qui devient important pour nos richesses, ce n'est pas de nous enrichir matériellement, mais c'est la relation avec les autres. L'argent et notre façon de le gérer devient alors un révélateur de la façon dont nous comprenons le royaume de Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Moi, ça me fait penser à la parabole des mines, hein, que j'ai déjà citée. Notre vie sur terre est une préfiguration de notre vie céleste. Pourrait donner l'image d'une période d'entraînement. Je veux dire, on se préparerait à quelque chose. Si nous sommes trouvés fidèles dans la gestion des petites choses, donc de ce qu'on aura fait sur terre, alors Dieu nous confiera de grandes choses dans l'éternité. Et là, on voit donc qu'il n'y a pas deux domaines, l'un matériel, qui serait sans importance pour le salut éternel de l'homme. Au contraire, c'est la fidélité dans le domaine matériel qui détermine, ou plutôt qui révèle, la fidélité dans le domaine spirituel. Enfin, au verset 13, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En plaçant ici cette phrase, Dieu veut nous indiquer que le problème de notre relation à l'argent, c'est pas d'abord un problème moral, c'est un problème théologique. La question, c'est pas comment bien faire avec mon argent, mais c'est qui est ton Dieu ? Qui est-ce que tu sers ? Vous connaissez tous ces versets de Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Généralement, dans nos Bibles, la parabole s'arrête au verset 13, mais si on lit juste le verset 14, il nous est dit que les pharisiens aimaient l'argent et se moquaient de Jésus. Et on peut donc dire, ils ont entendu un enseignement, mais ils n'ont pas compris. Alors je me pose cette question à moi, est-ce que moi je saurais me souvenir de cet enseignement ? De façon à créer des liens avec ceux qui sont autour de moi et à renoncer ce qui me retient captif, comme le singe qui a plongé la main dans la noix de coco. Voilà, je vous laisse avec ces questions pour vous-même. Amen.
Merci Philippe.